ta vie dans un ouvrage, 578 pages, par un auteur anonyme qui révèle tes secrets. Mais tu peux me faire confiance, je sais garder une confidence.
Tiré de son album Univers Parallèle, c'était la pièce Ta biographie, Damien Robitaille.
Actualité culturelle, très mauvaise nouvelle, Morane retrouvée morte à Bruxelles, la chanteuse de 57 ans venait de renouer avec la scène. La chanteuse belge qui venait tout juste de renouer avec la scène s'est éteinte à l'âge de 57 ans, a annoncé la chaîne télévisée belge RTBF hier soir. Selon la chaîne, l'icône de la chanson francophone a été retrouvée hier soir dans son lit en banlieue de Bruxelles. La cause de son décès n'a pas été précisée. Née en 1960, Morane a été découverte par le grand public en 1983 avec la chanson « Danser », tirée de l'album du même nom. La même année, Michel Berger lui offre le rôle de Marie-Jeanne dans la deuxième mouture de l'opéra rock Starmania qu'elle défendra pendant 6 mois. Depuis, elle avait publié une dizaine de disques, incluant Morane en 1989, qui lui avait permis par la suite de se produire à l'Olympia. La chanteuse avait dû abandonner la scène en 2016 en raison de problèmes aux cordes vocales. Elle était toutefois revenue à la chanson la semaine dernière en participant à un festival à Incourt en Belgique consacré à Jacques Brel. Aujourd'hui, je remets officiellement les pieds sur une scène après plus de 2 ans d'absence. Je ne vous dirai pas dans quel état je suis. Vous devez vous en douter, s'est réjouie la chanteuse le 3 mai sur son compte Facebook. Morane a donné son dernier spectacle à vie dimanche, à l'occasion de la fête de l'Iris à Bruxelles. La chanteuse planchait sur un nouvel album prévu pour l'automne 2018, dont un premier extrait devait paraître l'été prochain. Elle envisageait de partir en tournée en mars 2019.
Toi qui courais dans les flaques, moi et ma tête à claque. chose, ma bestiole. Et moi, moi je n'étais qu'un pot de colle. Lorsque j'entends ce prélude de Bach par Glenn Gould, ma raison s'envole.
Ouf, très belle chanson. Sur un air de Bach, évidemment. Alors, on poursuit avec Léa Clermont-Dion qui répond à Arcan. Lors de son passage à Tout le monde en parle, dimanche, Denis Arcan a parlé de féministes enragées, ce qui a soulevé une certaine indignation sur les réseaux sociaux. Léa Clermont-Dion a répondu au réalisateur sur sa page Facebook. « Vous avez adopté hier un ton méprisant envers celles qui construisent un monde plus égalitaire, celles qui s'indignent face aux violences. Et si la colère les habite, c'est qu'il y a aussi de la souffrance, des blessures et des abus. Pourquoi ridiculiser avec tant de condescendance une quête de justice? Les féministes que je connais sont indignées, en colère, mais elles rayonnent aussi par leur mobilisation, leur solidarité, leur argumentaire, a écrit la co-animatrice de Mitsu et Léa. À l'intention du cinéaste dont le prochain film « La chute de l'Empire américain » sortira en juin, elle poursuit « Vous vous intéressez au déclin de l'Empire américain. C'est vrai que vous en êtes un témoin privilégié. Vous y prenez vous-même part. En 1970, vous dénonciez avec intelligence les abus des élites. Aujourd'hui, vous en êtes un porte-étendard. PS, je suis une féministe enragée. » La première semaine de la diversité théâtrale aura lieu du 14 au 17 mai à Montréal. Présentée par le Conseil québécois du théâtre, CQT, Diversité artistique Montréal, DAM et la compagnie Modern Times, cet événement a été conçu par les membres du Comité théâtre et diversité culturelle du CQT, dont le porte-parole est Charles Bender. Les activités s'adressent principalement aux professionnels, mais deux d'entre elles peuvent accueillir un plus large public à condition de réserver sa place. Il s'agit de la table ronde d'ouverture portant sur les nouvelles alliances et initiatives de mixité théâtrale et de la conférence débat « L'altérité des artistes, les artistes de l'altérité ». La directrice du Théâtre du Nouveau Monde, Lorraine Pintal, mettra en scène « Je veux de l'amour » le 14 mai sur la scène du TNM. Inspirée par la pièce inespérée et inattendue de Régent Ducharme, ce spectacle est inscrit et interprété par des bénéficiaires de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, ainsi que des membres du Théâtre aphasique, des Impatients et des Muses, collaboration spéciale de Pascal Montpetit. « Je veux de l'amour » est présenté au TNM le lundi 14 mai à 19h et l'entrée est libre. Le prix Émile Nelligan va à François Guérette. C'est un livre abouti et fort accompli par un poète qui y démontre l'ampleur de son talent qui a été retenu lundi par le jury de la Fondation Émile Nelligan. Le 39e prix Émile Nelligan, Constellation des grands brûlés, de François Guérette tire sa force dans la fluidité des figures et la souplesse avec laquelle les images sont liées et s'entremêlent, a déclaré le président du jury, José Aquelin. Stinless est de Hugo Beauchemin-Lachapelle et À propos du ciel, tu dis, de Sarah Brunet-Dragon, étaient les deux autres finalistes de ce prix qui couronne un poète de 35 ans ou moins pour un recueil publié en français au cours de la dernière année. Décès de l'animateur et journaliste André Payette, son éternel nœud papillon était devenu en quelque sorte l'étendard de Nord-Sud, son émission diffusée par Radio-Québec. Pendant 8 ans, André Payette y a invité ses auditeurs à mieux saisir les tensions planétaires par l'entremise d'une formule comprenant un reportage, une entrevue et un bulletin d'information. L'émission s'est arrêtée en 1991. Ce sera la dernière grande émission à laquelle son image fut directement associée. Ses débuts dans le journalisme professionnel remontent en 1953 à Trois-Rivières, à l'antenne de CHLN, où il travaille à compter de 1954. Il se trouve aux côtés de Georges Dor, Raymond Lebrun, Jacques Dufresne, Gilles Leclerc, Pierre Bourgault, mais aussi son épouse. En 1951, André Payette a épousé Lise Ouimet, bientôt connue comme animatrice puis comme ministre sous le nom de Lise Payette. Avant de divorcer en 1972, le couple aura 3 enfants, Daniel, avocat, Dominique, journaliste et Sylvie, scénariste. Tokyo, un musée d'art unique au monde. La cascade dévale le long d'un mur et envahit la pièce. L'illusion est parfaite. Bienvenue dans le nouveau musée du collectif japonais Team Lab, qui s'est fait connaître par ses spectaculaires expositions d'art numérique et œuvres et ouvre un espace dédié cet été à Tokyo. Promenade bucolique au milieu d'une rizière, balade urbaine dans un entrelac de lampes, plongée dans un océan de vagues et dégustation d'un vrai thé vert agrémenté d'une fleur virtuelle. Au cours de sa déambulation, le visiteur est totalement immergé dans des installations en perpétuel changement. Au programme également des activités ludiques comme cette forêt où on peut crapahuter sur des collines, s'envoler dans l'espace en sautant sur une sorte de trampoline ou battre le rythme à l'unisson d'une centaine de danseurs traditionnels en forme de silhouettes translucides. Au fil de 5 différents univers, les œuvres réagissent au contact du spectateur et le suivent dans son parcours, un processus qui est le fruit de complexes algorithmes.
J'avance sans peur. Dead zone de toute la barre, tenir aux choses à marcher seul sur le volcan, le feu déclenche parfois le vent, le doute est un collier d'épines, je reste pour percer. Ne prenons plus.
trop de feu, trop de violence, trop d'énergie, trop de désir, trop de peur, trop de mouvements contraires, trop d'agitation. Et j'ai l'impression que si j'arrive pas à canaliser tout ça, si j'arrive pas à trouver le point d'équilibre, je vais me consumer d'un coup. Mon cœur va lâcher.
Et on vient d'entendre la chanteuse Barbara Carlotti avec la pièce « Voir les étoiles tomber », c'est de son plus récent album « Magnétique ».
Sujet libre, les postes du futur. Un voyage dans le temps, des Montréalais ont rédigé 9000 cartes postales qui seront livrées en 2042. C'est un texte de Caroline Monpetit dans Le Devoir d'aujourd'hui. Dans 25 ans, les voitures pourront voler, les animaux parler, les téléphones intelligents contiendront 100 millions de gigaoctets et il n'y aura plus de policiers. C'est du moins ainsi qu'un enfant de l'école primaire à Lyon a envisagé l'avenir sur la carte postale qu'il a écrite pour le projet. Les postes du futur, c'est le nom du projet, mené l'été dernier par l'organisme Comptoir public. À bord d'une camionnette, l'équipe de Comptoir public a sillonné les 19 arrondissements de Montréal pour inciter les gens à écrire une carte postale qui sera postée en 2042, soit à l'occasion du 400e anniversaire de Montréal. Cette carte pouvait être adressée à un proche, à une institution, aux personnes qui habiteront à l'endroit où les rédacteurs vivaient présentement, et même à eux-mêmes. À l'aide d'un objet en voie de disparition, la carte postale est d'un geste tout aussi menacé, l'écriture manuscrite, les participants de tous âges et de toutes les couches sociales ont été invités à se projeter dans l'avenir. La proposition a suscité un vif intérêt dans le public. Au cours de l'été, Comptoir public a récolté plus de 9000 cartes postales au contenu divers. Et il n'était pas rare que l'exercice suscite de fortes émotions parmi les participants. On se retrouvait avec des gens qui venaient nous voir en larmes, comme si la carte postale qu'ils venaient d'écrire était leur bien le plus précieux, raconte Antoine Beaudoin-Jantaise, l'un des instigateurs du projet. Cela ouvrait une perspective sur le futur, sur la fragilité de la vie. Et il y a des gens qui réalisaient qu'ils ne seraient plus là dans 25 ans. Alors que les jeunes de Comptoir public avaient au départ surtout en tête d'amorcer une réflexion sur des thèmes sociaux, ils se sont rendus compte que le projet a rapidement débordé sur le territoire de l'intime. Certaines personnes ont confié à la carte postale de grands secrets. Un père raconte à sa fille qu'il croit avoir échoué auprès d'elle et qu'il espère qu'elle lui pardonnera. Une personne raconte que sa famille vit dans sa maison depuis 5 générations et qu'il y a des choses cachées dans les planchers. L'idée de ce projet a d'abord germé dans la tête d'Antoine Beaudoin-Jantaise et de Chloé Saint-Cyr, auxquels se sont rapidement joints Guillaume Duval et Gabriel Léger-Savard. Elle est venue d'une certaine fascination pour les cartes postales, ces objets du passé, mais aussi d'une interrogation sur l'avenir. Dans notre génération, il y a un questionnement au sujet du monde actuel, raconte Antoine Beaudoin-Jantaise, qui a 29 ans. On se demande, qui sommes-nous en tant que génération? Qu'est-ce qui va se passer dans le futur avec les angoisses de notre société? Alors, on s'est dit que ce serait intéressant de communiquer avec le futur pour voir si ce qu'on pense aujourd'hui va se répercuter dans le futur. Antoine Beaudoin-Jantaise relève aussi que sa génération vit énormément dans le moment présent et qu'elle a du mal à se projeter si loin. En fait, ce sont les jeunes en milieu scolaire qui se sont davantage exprimés sur des questions sociales et politiques, ont constaté Guillaume Duval et Antoine Beaudoin-Jantaise. Les réflexions sur le plan de l'écologie et de la politique, cela ressortait assez fort chez les jeunes dans les écoles. Chez les 35-40 et plus, on voyait plus de trucs liés à soi ou au futur. Plusieurs jeunes ont par exemple exprimé des inquiétudes au sujet de la présence du gouvernement Trump à la tête des États-Unis. Ça n'est pas étonnant, racontent les organisateurs, dans la mesure où le nom de Donald Trump est omniprésent dans les réseaux sociaux. Guillaume Duval a aussi été étonné de voir à quel point les jeunes ont exprimé le souhait de voir les échanges humains persister malgré l'omniprésence de la technologie. Et ceux qui tripaient sur la technologie ont dit souhaiter que celle-ci serve à la cause écologique, dit-il. Certaines personnes ont écrit au futur maire de Montréal pour réclamer la fin de la corruption ou de la politicaillerie. Plusieurs se sont intéressés à l'urbanisme. D'autres ont raconté l'histoire de leur maison, des arbres qu'ils ont eux-mêmes plantés, etc. Les cartes postales amassées par les postes du futur seront conservées durant 25 ans à la médiathèque du musée Pointe-à-Calière. Ensuite, elles sont destinées à être renvoyées dans la population, à chacun des destinataires mentionnés. Et si les services postaux traditionnels n'existent plus en 2042, il y aura bien un service de messagerie capable de les livrer à bon port, soutient Guillaume Duval. Les images ornant les cartes postales du futur ont été conçues par une quarantaine d'artistes de Montréal qui ont eux-mêmes signé des messages. Vue du Mont-Royal 2017, quelle sera la couleur du ciel en 2042, demande Dominique Blain. Mardi 15 avril 2053, 7h30, comme tous les jours. Paul part au travail en ballon autonome, écrit Clément Guégan. Le projet a retenu l'attention de deux chercheuses du Centre de recherche Culture, Arts, Société, Magali Hull et Katharina Niemeyer, toutes deux professeurs à l'UQAM, présentent par ailleurs une conférence à ce sujet vendredi au congrès de l'Association francophone pour le savoir à Chicoutimi. En fait, les postes du futur ont surtout permis de faire un état des lieux du présent, dit Katharina Niemeyer en entrevue. On sentait que les gens étaient confrontés à leur finitude. C'est donc une nostalgie du temps présent qui a été exprimée. Ces cartes, disent-elles, ont été lancées comme des bouteilles à la mer. Il sera fascinant d'en suivre le chemin dans 25 ans. Alors voilà pour cet article, Un voyage dans le temps. C'est dans Le Devoir d'aujourd'hui, sous la plume de Caroline Montpetit. La section Pause santé dans la presse, la poigne comme indicateur de déficit cognitif. C'est un article de Mathieu Perrault. La force d'une poignée de main peut aider au pronostic des maladies psychiatriques selon deux nouvelles études australiennes. Un entraînement musculaire pourrait même aider à prévenir les déficits cognitifs liés aux problèmes de santé mentale. Le contexte. Depuis une dizaine d'années, plusieurs études ont utilisé la force de la poignée de main comme indicateur de la masse musculaire générale d'une personne. C'est assez constant. Plus une personne a une poigne forte, plus sa masse musculaire est importante, explique Joe Firth, psychologue à l'Université Western Sydney, qui est l'auteur principal des deux études publiées à la mi-avril. Il y a des différences entre femmes et hommes, mais on en tient compte. M. Firth précise que la poignée de main comporte en outre une dimension de motricité fine, qui pourrait permettre d'établir un lien encore plus direct avec la santé cognitive. La genèse, la force de la poignée de main, a tout d'abord été étudiée par des chercheurs en gériatrie comme indicateur de la démence liée à l'âge. Les médecins savaient d'une manière anecdotique que les patients qui soudainement avaient une poignée de main moins ferme quand ils arrivaient à leur rendez-vous semblaient plus à risque de développer de la démence, explique Joe Firth. Des études ont montré que l'affaiblissement de la force de la poigne est lié à la perte de matière blanche dans le cerveau, molécule importante pour le fonctionnement cognitif. Il était tout naturel de voir si ça pouvait s'appliquer aux autres déficits cognitifs, par exemple, ceux qu'entraînent les problèmes de santé mentale. Le psychologue australien s'intéresse plus généralement aux facteurs connexes aux troubles mentaux et à la démence, qu'il s'agisse d'exercice physique, de régime alimentaire ou d'usage de drogue ou d'alcool. Ce que révèle l'étude. L'étude publiée dans la revue JAMA Psychiatry a évalué les performances cognitives et la force de la poignée de main de 110 000 personnes, dont 23 000 étaient atteintes de dépression majeure et 1 500 de maniaco-dépression. Celle du bulletin qui concerne la schizophrénie a fait les mêmes analyses chez 475 000 personnes, dont 1 000 personnes avaient des troubles psychotiques, principalement la schizophrénie. Les résultats sont clairs, dit M. Firth. Les différents types de mémoire et le temps de réaction sont tous meilleurs chez les gens qui ont une poignée de main plus forte. Les données ont été extraites d'une vaste base de données médicales britannique, UK Biobank, lors d'études postdoctorales de M. Firth à l'Université de Manchester. Et maintenant, le psychologue d'origine écossaise a lancé une intervention visant à augmenter la masse musculaire de patients atteints de dépression majeure pour voir s'ils vont guérir plus vite. Il veut également déterminer si pour la démence liée à l'âge, les activités physiques augmentent l'effet bénéfique des activités cognitives. On dit souvent que les personnes âgées qui font des mots croisés ont moins de risques de démence, dit M. Firth. Mais on a vu que l'effet de l'activité physique musculaire est tout aussi grand. Comme il s'agit de deux mécanismes biochimiques différents, il se peut que des interventions physiques et cognitives aient encore plus d'effets protecteurs. Il serait aussi intéressant, selon lui, d'examiner le processus biochimique responsable de l'effet protecteur de la masse musculaire sur les capacités cognitives des personnes âgées et des patients psychiatriques. Il s'agit visiblement de molécules qui traversent la barrière entre le système sanguin et le cerveau. Peut-être pourrait-on trouver de nouveaux médicaments. 1,5 % des Canadiens auront un diagnostic de maniaco-dépression dans leur vie. C'est tout pour le quotidien des quotidiens. Ici Hélène Denis qui vous souhaite une belle journée. Profitez-en, il fait tellement beau. Merci, mon cher Jean-Sébastien Laliberté, à la mise en onde et au choix musical. Je vous retrouve au Par Actualité.